Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Alexandre Niungeko.
Nous sommes samedi 12 novembre 2022. Merci de suivre la radio Nzamba Gatega Kawe. C'est le moment du journal en français. Donc voici d'abord la charpente. Les importateurs du carburant qui refusent de servir ce produit pour une raison ou une autre peuvent se voir rayés de la liste des commerçants des produits pétroliers. C'est une menace faite hier par le chef de l'État Evariste Ndayishimiye et c'était dans la province Mwaro dans une réunion de sécurité. Montée des prix des produits de première nécessité dans la province Tolumongue, les habitants qui vivent déjà dans une misère sans précédent se lamentent. Mauvaises conditions de vie des Burundais qui sont rentrés d'exil, ils viennent de le signifier dans une correspondance qu'ils ont transmise au Haut Commissariat pour les réfugiés. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bonjour, bienvenue à ce nouveau rendez-vous d'information.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Pour commencer ce journal, deux personnes, un chauffeur et son convoyeur, ont trouvé la mort dans un accident de roulage qui s'est produit hier soir sur la colline Chogo, en commune Mugamba de la province de Bururi. Il s'agit d'un camion qui a dérapé et qui s'est renversé. Ce camion transportait du ciment Buseko de la province Chibitoke vers Rutana. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Le président de la République menace de sanctionner certains importateurs du carburant qui l'accusent d'observer un mouvement de grève en fermant les stations de distribution du carburant. Cela a été annoncé hier dans une rencontre du chef de l'État Evariste Ndayishimiye avec les représentants du secteur de la sécurité tenus en province de Mwaro. Alain Diomède Nzeyimana, porte-parole du président de la République, indique que le gouvernement va décider de radier ces commerçants de la liste des exploitants de ce secteur. On l'écoute.
Il y avait quelques semaines, le problème de carburant n'était plus, il était résolu, mais c'est observé un comportement de certains commerçants qui ont décidé de ne plus vendre le carburant. Alors, les décisions doivent être prises. On va décider de prendre ces stations appartenant à ces soi-disant commerçants. Alors, on va les exploiter et on va radier ces personnes-là des listes de commerçants qui font le commerce de carburant. Je suis certain qu'il y a d'autres individus qui pourraient le faire.
Recrudescence ces derniers temps de la criminalité liée à la destruction méchante des champs de culture dans certaines localités des communes Gatara et Muruta. Nous sommes dans la province de Kayanza. Le cas le plus récent, celui de la nuit de ce vendredi à samedi, où trois champs de maïs des collines des Kibalibali et Karambi ont été entièrement abîmés par des gens non encore identifiés. Les administratifs décrivent ce genre de comportement jugé préjudiciable à l'économie et invitent la population à la vigilance et dénoncent toute personne suspecte de cas pareils. Edi Claude Ninazwe pour plus de précisions.
D'après les informations en provenance de la commune Gatara de champs de maïs appartenant au chef de colline Kibalibali et un autre appartenant au moniteur agricole de la colline Karambi ont été détruits dans la nuit de ce vendredi à samedi par des inconnus. Un acte criminel de plus après celui dont le chef de la colline Munini ainsi qu'un habitant de la zone Ngoro, toujours dans la même commune de Gatara, ont été victimes au cours des deux semaines passées quand leurs champs de maïs ont été aussi endommagés dans les mêmes circonstances. La même criminalité a été observée sur les collines Chamazi, Nyakibari et Funda de la commune Muruta, voisine de celle de Gatara, où au cours de la même période, de champs de maïs et de pommes de terre ont été méchamment détruits. Les administratifs disent être inquiétés par ce genre de criminalité inhabituelle et invite la population à la vigilance et à la dénonciation des suspects afin que ces actes soient éradiqués en traduisant les criminels devant la justice.
Montée des prix des produits de première nécessité, surtout du haricot dans la province de Rumonge. Les habitants grognent, ils pensent que cette montée de prix est due à la dernière mesure interdisant l'échange des denrées alimentaires avec les habitants des provinces voisines. Le point avec Josine Kazé.
Selon les informations recueillies auprès des habitants de Lumongue, les prix des denrées alimentaires de première nécessité ont été revus à la hausse par rapport aux deux derniers mois. Le prix d'un kilo de haricots qui était à 2800 francs burundais s'achète aujourd'hui à 3500 francs. Le riz qui s'achetait à 3000 francs, son prix varie actuellement entre 3500 et 4000 francs le kilo. La farine de maïs qui était à 1800 le kilo, aujourd'hui il varie entre 2300 et 2500. La farine de manioc qui s'achetait entre 1300 et 1500 le kilo, aujourd'hui s'achète à 2000 francs. La population se dit inquiète de cette situation.
Nous sommes inquiets de cette montée des prix. Imaginez-vous, ces trois derniers mois, le prix d'un kilo de haricots qui s'achetait à 1000 francs ou 1700 francs burundais, selon la qualité, aujourd'hui s'achète à 2800 ou 3500 francs burundais. Nous étonnons aussi des mesures prises par les administrateurs des communes voisines, surtout celle de Matana, à Bourri, qui interdisent à ses habitants de nous vendre des produits alimentaires comme si nous n'étions pas des Burundais.
Ces habitants de Lumongue s'insurgent contre la décision prise par l'administration interdisant l'échange des produits alimentaires avec les communes des autres provinces, ce qui pour les habitants est la base de cette montée des prix.
Cela fait une semaine que cette mesure d'interdire l'échange des produits alimentaires entre différentes provinces est prise. Chaque voiture qui descend doit être fouillée afin de s'assurer qu'on n'y trouve pas de sacs de haricots ou autres denrées. Ceux qui parviennent à les faire passer, ils doivent payer une taxe à la commune, raison pour laquelle ces produits sont chers. Nous aussi, à Omongue, nous avons des produits que nous échangeons avec certaines communes de Wuruli. Et si nous essayons de faire la même chose, cette manière de créer une division au sein de la population ne nous enchante pas. L'administration ne fait rien pour remédier à cette question.
La rédaction de la radio Inzamba a contacté le gouverneur de la province de Lumongue, Léonard Niyonsaba, pour qu'il nous éclaire sur cette situation, mais il n'a pas décroché son téléphone.
Inzamba.
Des proches de Justin Savushimike réclament toujours la lumière sur sa mort. Justin Savushimike, c'est son conducteur de mototaxi qui est mort le 18 octobre dernier dans la zone Bigina de la commune Kayogoro en province de Makamba. Sa famille continue de réfuter l'argument des initiatives de Kayogoro, argument selon lequel il s'agit d'une mort accidentelle, et le demande plutôt que les résultats de l'enquête sur son décès soient dévoilés. Georges Nimenya nous en dit un peu plus.
Pris d'un proche parent de Justin Savushimike, après près d'un mois d'attente des résultats de l'enquête sur la mort de cet habitant de Kayogoro. Selon lui, si la police a procédé à une enquête après son décès, la famille a le droit d'être informée sur les vraies circonstances de sa mort pour que justice soit faite pour Justin.
Ils ont affirmé qu'il avait cogné un arbre. Nous voulons être tenus informés de l'état d'avancement de l'enquête et du sort de ces présumés bourreaux. Nous continuons d'affirmer qu'il a été tué par balle parce que tout le monde sait qu'il y a eu des coups de feu. Nous voudrions savoir s'il y a eu une enquête pour que nous soyons informés de ces résultats et que nous sachions la vraie cause de son décès.
Le fait que la moto que conduisait Justin Savushimike soit toujours gardée à la brigade de Gatwe révolte ses proches.
Pourquoi ont-ils saisi sa moto qui se trouve toujours à la brigade de Gatwe? Nous voudrions que justice soit faite pour que ceux qui ont commis ce crime soient traduits en justice.
Nous avons essayé de joindre par téléphone le responsable de la brigade de Gatwe en commune de Kayogoro, mais en vain. Justin est mort le soir du 18 octobre dernier. Le chef de la zone de Bigina et la police de Gatwe ont affirmé qu'il est décédé après avoir percuté un arbre en fuyant la police parce qu'il transportait de l'engrais fraudé. Mais selon sa famille, il a été abattu par les policiers en patrouille qui voulaient lui voler sa moto.
Les Burundais qui sont rentrés d'exil il y a plus de 2 ans disent être mal assistés et déplorent les conditions de vie dans lesquelles ils sont. Depuis qu'ils sont rentrés au Burundi, ils demandent au commissariat pour les réfugiés de leur venir en aide financièrement. Cela transparaît dans une lettre qu'ils ont adressée ce vendredi aux responsables du ACR. Le point avec Evin Mukeshiman.
Ces Burundais qui sont rentrés d'exil disent avoir adressé une lettre aux responsables du HCR pour leur signifier la situation qu'ils traversent depuis qu'ils sont arrivés au Burundi. Un des 25 Burundais qui ont écrit cette lettre explique qu'ils vivent dans de mauvaises conditions au moment où les prix des denrées alimentaires ont sensiblement augmenté sur le marché.
Les gens au Burundi sont très insuffisants de façon que nous ne pouvons pas habituer la vie actuelle au Burundi. Imaginez, maintenant, un sirop de riz, ça coûte 3500 flambeaux, un sirop de haricot, ça coûte 2500 flambeaux, un sirop de farine de maïs coûte 2500 flambeaux. Alors, c'est une situation très difficile à gérer pour nous, rapatriés du Burundi, parce que nous avons vécu ailleurs le pays il y a 7 ans, 8 ans. Concernant nos enfants à l'école, on dit que les enfants burundis étudient gratuitement, mais on ne peut pas dire que c'est gratuit, parce qu'on demande des frais aux élèves. Et cela aussi augmente la difficulté à la vie des rapatriés burundis.
Une autre chose que ces Burundais soulèvent est que des maladies liées au manque de l'alimentation commencent à attaquer leurs enfants et femmes. Ils exhortent les responsables du HCR de leur venir en aide dans les plus brefs délais.
Ce que nous demandons pour le HCR et le gouvernement burundais, c'est de nous aider, de nous donner une aide très urgente parce que maintenant, il y a des enfants qui sont malades à cause de la faim et aussi il y a des femmes qui font des avortements à cause des maladies provoquées par la faim. Vraiment, la vie que nous vivons est une vie très critique. Alors c'est pour cela que nous demandons à celui qui paie, qui peut nous aider.
Signalons que cette lettre est la deuxième qu'ils adressent aux responsables du HCR depuis leur arrivée au pays.
Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, nous parlons de la problématique du rapatriement des réfugiés burundais et ce mini-magazine vous est présenté par Émile Nibasumba.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Ijuya Onyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Le HCR et certains gouvernements de différents pays de la communauté est-africaine sensibilisent ces derniers mois les réfugiés burundais pour un rapatriement dans leur pays d'origine, surtout ceux qui résident dans les camps des réfugiés. Mais au début de ce mois de novembre, le gouvernement du Burundi a déploré le fait que ce rapatriement ne se passait pas comme prévu. Qu'est-ce qui empêche ces Burundais de rentrer dans leur pays d'origine en réalité? C'est ce que nous allons voir au cours du mini-magazine au cœur de la société de ce 12 novembre 2022. À la présentation, c'est Émile Nibasumba. Bienvenue. Le 2 novembre dernier, il y a une semaine, la réunion de 3 jours organisée par le HCR et le gouvernement du Burundi se clôturait à Bujumbura. La haut-commissaire adjointe du HCR, Kelly Clements, était sur place. Le chargé des questions des réfugiés au sein du ministère de l'Intérieur, Nestor Bimenyimana, a déclaré ce jour-là que les effectifs des rapatriés étaient très faibles.
Chabarundi bihumbi mirongi ngui bazohunguka bavuye mu bihugu bahungiyemo ariko uyu munsi turi tariki zibiri z'ukwezi kwa
Par exemple, pour cette année, nous avions prévu un rapatriement de 70 000 Burundis, mais aujourd'hui, nous sommes le 2 novembre et nous n'avons pas atteint même 20 000 rapatriements. Vous voyez qu'il y a un relâchement. Nous avons conclu un partenariat avec la Tanzanie, notre pays voisin qui héberge le plus grand nombre de réfugiés burundais, de rapatriés, 1400 Burundais par semaine. Mais à cause de ce manque de volonté des réfugiés, nous accueillons moins de 50, parfois même 17, 15 rapatriés par semaine.
Abarundi bari munsi ya 50 mbere ndetse hari naho bishika tukakira abarundi bari mu 10, 15, 17 murumva ko ivyo bintu birateye amakenga gose.
Vous comprenez que c'est inquiétant. C'est pourquoi nous avons demandé au HCR de nous aider pour voir s'ils peuvent se rapatrier. Nous ne comprenons pas pourquoi ils ne rentraient pas. Le pays est en paix et dans le processus de développement aussi. Nous avons approché nos partenaires et certains réfugiés pour connaître la raison et ils nous ont dit que même ceux qui se rapatrient ne sont pas bien traités.
Igihugu kiri ku murindi w'iterambere utomoye ntacyo tuma badahunguka rero mu byo batubwiye no mu byo tubumva kuma amatwa dusumira bavuga bati nabahungutse ntibafashwe neza
Qu'est-ce qui empêche ces Burundais de rentrer dans leur pays d'origine? Nos confrères de la radio Inzamba ont parlé à certains d'entre eux qui sont hébergés dans différents camps des réfugiés de la communauté est-africaine.
Moi, réfugié du camp d'Anguita, la raison qui me pousse à ne pas répondre à l'appel du gouvernement est que le motif de ma fuite n'est pas encore une issue favorable. On assiste toujours à des tueries de personnes innocentes, des enlèvements et des harcèlements de ceux qui ont déjà reparti. Au cas où les problèmes qui hantent les réfugiés auront une issue favorable, telle que la paix pour tous, les biens des réfugiés seront remis, je rentrerai, car la vie en exil n'est pas bonne.
Personne n'est ravi de vivre en exil. D'ailleurs, nous sommes étonnés des discours des autorités tanzaniennes et burundaises qui nous disent que tout il y a la paix et la sécurité au pays. Est-ce que cette paix et sécurité qu'on chante toujours, c'est pour nous seulement les réfugiés qui se trouvent en Tanzanie? Ou bien c'est une paix, c'est pour tout le monde. C'est pour les journalistes, c'est pour les défenseurs des droits de l'homme, c'est pour les hommes politiques qui sont toujours en exil. Je pense que nous répondrons massivement à l'appel lancé par ces autorités-là le jour où les médias indépendants émettront sur le sort burundais. Le jour où les défenseurs des droits de l'homme seront de retour et les hommes politiques, je pense que ce jour-là, tout le monde se précipiteront à s'inscrire sur la liste du rapatriement.
Si moi, je ne réponds pas à l'appel du gouvernement burundais de rentrer au pays, ça dépend de plusieurs raisons. D'abord, l'insécurité, le manque de liberté d'expression, le corps sans vie trouvé chaque jour, la tyrannie du parti au pouvoir et l'enlèvement des opposants que j'ai fui existent encore. Ensuite, ceux qui rentrent au pays sont arrivés ou maltraités, ce qui les pousse encore une fois à fuir. Toutes ces raisons sont pour moi une barrière au retour au pays.
Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, l'ancien vice-président de la République, Frédéric Vambugnyuvira, indique que le ACR et le gouvernement du Burundi passent à côté du vrai problème.
Lorsque j'analyse le déplacement des populations des jeunes Burundais qui quittent le Burundi pour l'Europe via la Serbie, je crois qu'il est très clair que beaucoup de jeunes veulent, aspirent à quitter le Burundi. Je rencontre souvent les gens qui sont passés par la Serbie, qui arrivent fatigués, démunis de tout, et ils disent « voilà, nous sommes sauvés ». Comment justifier qu'il y a la paix et qu'il y a justement le déplacement des populations de l'intérieur vers l'extérieur du pays? Donc c'est une contradiction. Et pour eux, la sécurité, s'ils tuent des gens en silence, avec des cordes, avec des massues, avec toute autre forme, moyen pour tuer les gens, et qu'il n'y a pas de détonation d'armes, on ne peut pas dire qu'il y a la paix. Non, il n'y a pas de paix.
Cet ancien président de la Commission nationale de réhabilitation des sinistrés demande au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de traiter de la même façon les réfugiés, quel que soit leur pays d'origine.
Nous demanderions au HCR de considérer les réfugiés burundais comme un réfugié ukrainien, comme réfugié somalien, irakien, comme réfugié vénézuélien. Donc il faut qu'il soit considéré comme tout réfugié, indépendamment de son origine. Et ne pas dire qu'au Burundi, il y a de la paix. Il n'appartient pas au HCR d'apprécier que dans un pays, il y a la paix ou non. Ce n'est pas ça sa mission. Les gens ne rentrent pas parce qu'il n'y a pas d'assez de paquets retour. Les gens ne rentrent pas parce qu'il y a d'autres raisons. Ça veut dire les raisons qui ont poussé le réfugié à partir à l'extérieur. Les mêmes raisons sont là. S'il y a la paix, les Burundais vont rentrer. Sans forcing que nous observons, c'est une méthode contre-productive.
Jusqu'au 31 octobre 2022, la Tanzanie comptait plus de 145 000 réfugiés sur son territoire, tandis que le Rwanda en comptait plus de 50 000. Jusqu'au 30 septembre 2022, la République démocratique du Congo, elle, abritait plus de 41 000 réfugiés burundais, tandis que l'Ouganda abritait plus de 40 000. Jusqu'au 30 juin 2022, il y avait plus de 20 000 réfugiés et demandeurs d'asile burundais sur le territoire kenyan. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 12 novembre 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nwasumba. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Merci Émile Nibasumba. Et comme tous les samedis, nous allons clore ce journal avec la revue de la presse avec Karine Doussavé.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Débutons cette revue par les grognes des consommateurs des boissons alcoolisées de la Boiroudi que nous retrouvons dans l'hebdomadaire iWatch de cette semaine. Ils dénoncent une spéculation des tenanciers des bars qui profitent de la hausse des prix depuis le mois passé. Ces derniers se défendent cependant qu'il s'agisse de l'approvisionnement à partir de la Boiroudi qui cause problème. Pour tous les produits, y compris les limonades, ont connu une hausse qui varie entre 200 et 500 francs burundais. Les consommateurs des produits Boiroudi appellent le gouvernement à prendre des mesures pour décourager cette spéculation. Les activités économiques paralysées à Lumonge, la population a été contrainte d'aller accueillir le flambeau de la paix. SOS Média précise dans son article le marché central de Lumonge. Les boutiques, comme pour tous les magasins, n'ont pas ouvert leurs portes jeudi dernier sur ordre des autorités administratives. Les policiers, appuyés par les jeunes de la milice Imbonerakure, étaient chargés d'empêcher les habitants de vaquer à leurs occupations afin de les obliger d'aller accueillir le flambeau de la paix qui était arrivé dans la ville de Lumonge mercredi dans l'après-midi. SOS Média décrit la révolte de la population de Lumonge qui regrette d'avoir été privée de toute activité économique avant le passage de ce flambeau dans cette ville où la majorité des habitants vivent du commerce sur le littoral du lac Tanganyika. Et puis, le renouveau du Burundi cite les différentes personnalités qui se sont entretenues avec le président burundais, Evariste Ndayishimiye, en marge de sa participation au COP27 sur le climat tenu en Égypte début de cette semaine. Parmi celles-ci, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et le président du Conseil européen. De cette occasion, en tant que président en exercice de la communauté est-africaine, il a dirigé une réunion consultative sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Enfin, terminons par cette actualité sur l'environnement, des ordures entassées le long de la route dans la zone de Kamenge. Iwachu a recueilli des lamentations des habitants à cause des odeurs nauséabondes que dégagent l'état de ces ordures. Ces habitants constatent l'inertie de l'administration pour sanctionner ceux qui jettent ces déchets sur la route ou dans le ravin au bord de la rivière Nyawagele. La population demande à l'administration communale de prendre des mesures pour décourager les gens qui détruisent l'environnement.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Merci Karine Doussavé et c'est par cette revue de la presse que nous mettons un terme à ce journal. Merci à vous tous, toutes et tous, chers auditrices, auditeurs, pour votre aimable écoute. Alexandre Nyungeko à la présentation. Je vous souhaite de passer un excellent week-end chez vous et parmi les vôtres. Au revoir et à la prochaine.